Chapitre 17. C'est l'enfant. Le lendemain, dans l'après-midi, trois membres de la grande famille étaient assis dans la bibliothèque du monsieur indien, faisant de leur mieux pour l'égayer. Depuis quelque temps, monsieur Carrisford vivait dans un état de pénible incertitude, et aujourd'hui, il attendait avec anxiété le retour de monsieur Carmichael, dont le séjour à Moscou s'était prolongé de semaine en semaine. Il n'avait pas retrouvé tout de suite la famille qu'il cherchait, et quand il avait enfin pu obtenir son adresse et s'y était rendu, il avait appris qu'ils étaient partis en voyage. Ne pouvant les suivre, il avait attendu leur retour à Moscou. M. Carrisford était dans son fauteuil et Jeannette par terre à ses pieds. Il aimait beaucoup cette petite. Nova s'était installée sur un tabouret. Donald à cheval sur la tête de tigre devant le feu s'amusait. Il faut en convenir, assez bruyamment. « Ne fais pas tant de tapage, Donald !» dit Jeannette. « Quand on vient égayer un malade, on ne crie pas aussi fort. Peut-être notre manière de vous distraire est-elle trop bruyante, monsieur Carrisford ?» lui dit-elle en se tournant vers leur hôte. Mais celui-ci se contenta de lui tapoter l'épaule. « Non, répondit-il, cela m'empêche de trop penser. »« Je vais me tenir tranquille, » assura Donald. « Nous allons tous demeurer silencieux, comme des souris. » « Les souris, en effet, ne font pas un tel tapage, » dit Jeannette. Donald se fit une bride de son mouchoir, sauta et ressauta sur la tête du tigre avec le même entrain. « Il faudrait 1000 souris, » dit-il gaiement, « pour faire autant de tapage que moi. »« Tu en fais autant que 50 000 souris, » dit Jeannette sévèrement, « alors que nous ne devrions pas en faire plus qu'une seule. » Monsieur Carrisford se mit à rire et tapota de nouveau l'épaule de Jeannette. « Papa sera bientôt ici, » dit-elle. « Voulez-vous que nous parlions de la petite fille perdue ?»« Je crois que je ne pourrai guère parler d'autre chose en ce moment, » répondit M. Carrisford d'un air las. « Nous l'aimons tant, » dit Nova. « Nous l'appelons la princesse des fées, qui n'est pas une fée. »«
Et pourquoi ?» dit M. Carrisford, que les inventions de la grande famille amusaient toujours.
Ce fut Jeannette qui répondit. « Parce que, bien qu'elle ne soit pas une fée, « elle sera tellement riche quand on l'aura retrouvée qu'elle sera une vraie princesse de fées. Nous l'appelions d'abord ainsi, mais ce n'était pas tout à fait le nom approprié. Est-ce vrai que son papa donna tout son argent à un ami qui le plaça dans une mine de diamants et qu'ensuite l'ami, se croyant ruiné, s'enfuit parce qu'il se faisait l'effet d'être presque un voleur ?»«
Mais il ne l'était pas vraiment, vous savez, » interrompit Jeannette vivement.
Le monsieur indien prit la main de la petite fille.
« Non. » En réalité, il n'était pas un voleur.
Je le plains, ce pauvre ami. Je ne peux pas m'en empêcher. Ce n'était pas sa faute, et cela a dû lui briser le cœur, j'en suis sûr.
Vous êtes une petite femme intelligente, Jeannette, dit M. Carrisford, et il pressa sa petite main.
Avez-vous parlé à M. Carrisford, cria Donald, de la petite fille qui n'est pas une mendiante? Lui avez-vous dit qu'elle a de beaux vêtements tout neufs? Peut-être qu'elle aussi était perdue. Et qu'elle a été retrouvée.
Voilà une voiture, s'écria Jeannette. Elle s'arrête devant la porte. C'est papa.
Ils coururent tous à la fenêtre pour regarder au dehors.
Oui, c'est papa, proclama Donald.
Mais il n'y a pas de petite fille.
Tous les trois se précipitèrent dans le vestibule. C'était ainsi qu'ils accueillaient toujours leur père. On les entendait sauter, battre des mains et échanger des baisers. Carrisford essaya de se lever, mais retomba dans son fauteuil.
« Inutile, je ne peux pas. Quelle ruine je suis !»
On entendit la voix de M. Carmichael qui se rapprochait. « Non, mes enfants, disait-il, vous viendrez plus tard, quand j'aurai parlé à M. Carrisford. Allez jouer avec Ramdas. » La porte s'ouvrit et il entra. Il avait meilleure mine que jamais et répandait autour de lui une atmosphère de santé et de cordialité. Mais ses yeux exprimaient de la tristesse quand ils rencontrèrent ceux du malade plein d'une anxieuse curiosité. Ils se serrèrent la main.
Quoi de nouveau? Et l'enfant que les Russes avaient adopté?
Ce n'est pas l'enfant que nous cherchons, répondit Carmichael. Elle est beaucoup plus jeune que la fille du capitaine Crewe. Elle s'appelle Emily Carew. Je l'ai vue et je lui ai parlé. Les Russes me donnèrent tous les détails désirés. À ces paroles, quelles ne furent pas la tristesse et le découragement de Carrisford? Sa main abandonna celle de Carmichael.
« Alors, il faut recommencer les recherches, »
dit-il, « voilà tout. Asseyez-vous, je vous prie. »
Carmichael s'assit. Il s'était peu à peu attaché à cet homme malheureux. Il était lui-même si bien portant et si heureux, si entouré de joie et de tendresse, que la solitude et la maladie lui semblaient des choses presque impossibles à supporter. Si une petite voix joyeuse d'enfant s'était fait entendre dans cette maison, combien elle aurait paru moins triste et moins déserte. Mais qu'un homme fût forcé de porter en son cœur cette pensée qu'il avait pu faire tort à un enfant et semblait l'abandonner, c'était là une chose intolérable.
« Allons, allons !» reprit-il d'un ton enjoué. « Nous la retrouverons !»«
Il faut nous remettre à sa recherche, sans tarder !» dit M. Carrisford, désolé.
« Avez-vous quelque idée nouvelle à me suggérer ?
N'importe laquelle !»
M. Carmichael parut hésiter. Il se leva et se mit à marcher de long en large, le visage préoccupé.
« Bien oui, peut-être, » dit-il.
« Je ne sais pas ce que vaut mon idée, mais le fait est qu'elle m'a passé par la tête, en réfléchissant à notre affaire dans le train qui me ramenait de Douvres.
« Et quelle est votre idée ? Si l'enfant est en vie, elle est quelque part. »
« C'est certain. Nous avons fait des recherches à Paris. Renonçons à Paris et fouillons Londres. »
« Il y a en effet beaucoup de pensions à Londres, » répondit Carrisford.
Et tout à coup, une pensée traversa son esprit.
« Mais j'y songe. Il y en a une à côté. Nous commencerons donc par celle-là. Nous ne pouvons pas commencer plus près. »
« Il y a dans cette école une enfant qui m'intéresse. Mais ce n'est pas une élève. C'est une petite fille aux cheveux bruns, à l'air mélancolique, aussi différente du pauvre crew qu'une enfant peut l'être de son père. »
La puissance magique était sans doute en route, car comment peut-on expliquer autrement l'arrivée de Ramdas dans la pièce au moment même où son maître parlait, s'inclinant respectueusement, mais sans pouvoir cependant cacher son émotion qui se lisait dans ses yeux sombres et ardents.
« Sahib, dit-il, l'enfant est là. C'est pour laquelle le Sahib a ressenti de la pitié. Elle rapporte le singe qui s'était de nouveau réfugié dans sa mansarde. Je lui ai demandé d'attendre, pensant que cela ferait plaisir au Sahib de la voir et de lui parler.
Qui est-elle ? Demanda Carmichael.
Qui peut le savoir ? Répondit M. Carrisford.
C'est la petite fille dont je vous ai parlé, une petite esclave de la pension.
Il fit de la main un signe à Ramdas.
Oui, je serai content de la voir. Allez la chercher.
Puis, se tournant vers Carmichael.
Pendant votre absence, j'étais désespéré. Les journées me paraissaient si sombres, si longues. Ramdas me raconta un jour la triste existence de cet enfant, et tous deux nous combinâmes un plan pour améliorer son sort. C'était peut-être puéril, mais cela me fut une occupation et une distraction. Sans l'assistance d'un oriental adroit et au pied léger, ce plan n'aurait cependant jamais pu être mis en exécution.
Sarah fut alors introduite. Elle portait le singe dans ses bras, et de toute évidence, il ne voulait pas se séparer d'elle. Il était cramponné à elle et jacassait. Le plaisir inattendu de se trouver dans la chambre de M. Carrisford avait coloré les joues de Sarah.
« Votre petit singe s'est échappé une seconde fois, » dit-elle de sa voix douce. « Il est venu gratter à ma lucarne hier soir, et je l'ai fait entrer parce qu'il faisait très froid. Je l'aurais rapporté immédiatement s'il n'avait pas été si tard. Mais je savais que vous étiez malade, et qu'il était préférable de ne pas vous déranger. »
M. Carrisford la regarda avec curiosité et intérêt.
« C'est très aimable de votre part. »
Sarah regarda Ramdas, qui était debout près de la porte.
« Voulez-vous que je le confie au Lascar ? » demanda-t-elle.
« Comment savez-vous que c'est un Lascar ? »
dit M. Carrisford avec un petit sourire intrigué.
« Oh, je connais les Lascars, » dit Sarah, en tendant le petit singe à Ramdas. « Je suis né aux Indes. »
Le monsieur indien se redressa si vivement et l'expression de son visage changea à un tel point que Sarah en fut presque effrayée.
« Vous êtes né aux Indes ? Est-il vrai ? »
s'écria-t-il.
« Approchez-vous. »
Et il lui tendit la main. Sarah s'approcha et posa sa main dans la sienne, comme il semblait le désirer. Elle resta immobile, et ses grands yeux se fixèrent sur ceux du malade avec étonnement. Il paraissait tellement ému.
« Vous demeurez à côté ? »
demanda-t-il.
« Oui, je demeure chez Miss Minchin. »«
Mais vous n'êtes pas une de ses élèves. »
Un étrange sourire effleura les lèvres de Sarah. Elle hésita un instant.
« Je ne saurais dire exactement ce que je suis, » répondit-elle.
« Et pourquoi donc ?»«
D'abord, j'étais élève pensionnaire. Mais maintenant... »«
Vous étiez une élève ? Qu'êtes-vous maintenant ?»
L'étrange sourire reparut sur les lèvres de Sarah. « Je dors dans la mansarde, à côté de celle de la fille de cuisine, » dit-elle. « Je fais les commissions de la cuisinière et tout ce qu'elle me commande. » Et j'enseigne le français aux petites.
Questionnez-la, car Michael, dit M. Carrisford, retombant en arrière comme s'il était épuisé. Questionnez-la, moi je ne peux pas.
Le gentil papa de la grande famille savait interroger les petites filles, et Sarah s'en rendit compte bien vite.
Qu'entendez-vous par ces mots ? D'abord, mon enfant.
Quand mon papa m'y amena.
Où est votre papa ?
Il est mort. Dit Sarah tristement. Il avait perdu toute sa fortune, et je n'avais plus un sou. Il ne restait plus personne pour s'occuper de moi et payer Miss Minchin.
Car Michael ! Cria M. Carrisford. Car Michael ! Il ne faut pas lui faire peur, lui dit M. Carmichael tout bas, en se tournant vers Sarah.
Alors, on vous envoya dans la mansarde, et on fit de vous une petite servante. C'est à peu près ça, n'est-ce pas ?
Il n'y avait personne pour s'occuper de moi. Il n'y avait pas d'argent. Je n'appartiens à personne.
Comment votre père avait-il perdu son argent ? Comment votre père avait-il perdu son argent ?
Demanda le monsieur indien tout haletant.
Il ne le perdit pas lui-même, répondit Sarah, de plus en plus étonnée. Il avait un ami qu'il aimait beaucoup. Beaucoup. C'est son ami qui prit son argent. Il avait trop confiance en lui.
La respiration de M. Carrisford devint encore plus rapide.
L'ami n'avait peut-être pas l'intention de lui faire tort. Cela ne fut peut-être que le résultat d'un malentendu.
Sarah ne savait pas combien sa petite voix parut impitoyable quand elle répondit. Si elle l'avait su, elle aurait certainement essayé de l'adoucir pour épargner le monsieur indien.
Mais mon papa en souffrit tout autant et il en mourut.
Comment s'appelait votre papa ? Demanda Carrisford. « Dites-le-moi !»«
Il s'appelait Ralph Crewe, » répondit Sarah, toute saisie. « C'était le capitaine Crewe. Il est mort aux Indes. »
La figure hagarde de M. Carrisford se contracta, et Ramdas s'élança pour porter secours à son maître.
« Carmichael !» dit le malade. « C'est l'enfant ! L'enfant !»
Pendant quelques instants, Sarah crut qu'il allait mourir. Ramdas versa dans un verre quelques gouttes d'une liqueur et l'approcha des lèvres du sahib. Sarah se tenait tout près, un peu tremblante. Elle regardait M. Carmichael d'un air effaré.
« Quel enfant suis-je ? » balbutia-t-elle.
« C'était lui, l'ami de votre père, » lui répondit M. Carmichael. « Ne soyez pas effrayé. Voilà 2 ans que nous vous cherchons. »
Sarah mit la main sur son front et ses lèvres tremblèrent. Elle parla comme si elle était dans un rêve.
« Et j'étais chez Miss Minchin pendant tout ce temps-là, » murmura-t-elle, « de l'autre côté du mur. »